La compagnie Ouroboros, c'est une compagnie de danse contemporaine qu'on a créée il y a très peu de temps, puisqu'elle est née en mai dernier. Mais par contre, notre rencontre à toutes les deux date d'il y a beaucoup plus longtemps. On s'est rencontrés, en fait, comme je pense pas mal de personnes ou de compagnies, à l'école, en formation.
À Paris, il y a 4 ans, donc on a fait les rencontres internationales de danse contemporaine, au cours desquelles on avait déjà commencé des projets par-ci par-là, et c'est ça qui a donné lieu ensuite à la compagnie. Moi, personnellement, je suis arrivée à Paris après mon bac et j'ai fait un master d'histoire de l'art à la Sorbonne, spécialisation histoire de la photo. Et en même temps que ma troisième année de licence, c'est là que j'ai intégré donc les RIDC, les Rencontres Internationales de Danse Contemporaine.
Et vous, Suzy ?
Et donc moi, j'ai fait des études avant, mais sur Tours. J'ai une licence de lettres modernes et ensuite je me suis aussi réorientée. J'ai fait un DUT métier du livre, donc je suis également bibliothécaire. et en fait, ce diplôme en main, moi j'ai dansé en parallèle depuis mes 15 ans. Et je me suis dit que cette fois, il fallait franchir le cap et puis me lancer. Donc je suis montée à Paris pour faire cette formation RIDC. Donc moi, pour le coup, j'étais pas du tout encore dans mes études quand j'y suis allée.
Et du coup, on a passé aussi notre diplôme d'état de professeur de danse contemporaine dans cette école. Ouais. Donc on est toutes les deux
Donc danseuse et professeuse. Voilà. Danseuse et professeuse.
C'est une école qui est assez orientée au niveau de la pédagogie. Et du coup, ça nous a posé en tout cas la question de la transmission et de la manière de s'exprimer et de parler du mouvement, comment le transmettre, comment le faire comprendre aussi, parce que de toute façon, dans la création, on y est confronté. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et du coup, c'est vrai que ça nous a semblé très logique de poursuivre cette voie-là, de le pousser et de poser la question de la pédagogie aussi.
Ce soir, vous êtes venu pour nous parler de la compagnie, donc la compagnie Ouroboros. Ouroboros, qu'est-ce que ça signifie exactement?
Tu veux y aller, Camille?
Ok. Du coup, c'est le nom du symbole grec du serpent qui se mord la queue, qui symbolise le temps qui est cyclique, donc l'éternel recommencement des choses, en fait, qui est aussi une référence au... simplement au fonctionnement du corps biologique, quoi. Les choses meurent et puis renaissent.
Et donc ce serpent donc forme un cercle qui est la forme parfaite géométrique.
Et entière.
Et donc à l'intérieur de ce serpent, donc, il y a du blanc qui est censé signifier la matière, en fait. Donc la matière d'où on peut puiser pour pouvoir créer, pour pouvoir faire naître des choses. Donc voilà, ce symbole nous a semblé assez adéquat pour ce qu'on voulait entreprendre.
C'est vraiment le symbole du coup de la compagnie, c'est surtout le rapport au corps, le...
En tout cas, une écoute du corps bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement quand de toute façon on est danseur et que ce serait un peu étrange. Mais en tout cas, oui, une écoute et une compréhension du corps, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus toutes les deux.
Tout à fait d'accord. Et sur la question du temps aussi, des choses en fait, et on se rend compte que le travail de création, ça peut prendre du temps et parfois ça avance pas comme on veut, mais il y a un moment où la boucle, je pense, quand même va être bouclée et voilà, et ensuite il s'agira de redésirer un nouveau projet et de repartir dans autre chose, mais voilà, pour nous à l'intérieur ça circule.
Vous nous l'avez dit, c'est une compagnie de danse contemporaine. Du coup, la danse contemporaine, comment on pourrait la définir, la décrire? C'est compliqué, j'imagine, à expliquer avec des mots.
Ouais, c'est une grosse question, mais que tout le monde pose tout le temps. Donc, il va être temps de pouvoir y trouver une définition, ou en tout cas quelques mots qui peuvent donner des balises, parce que c'est vrai que, contrairement à des danses qui sont très définies, ou en tout cas comprises, comme le classique ou comme le jazz... c'est vrai que le contemporain, il y a un tel panel de propositions que pour une personne pas forcément au courant ou ou qui ne s'est pas forcément posé la question, voire autant de choses différentes, ça peut être effectivement une question de qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on me donne à voir. Je pense qu'avant toute chose, il faut quand même remettre ça dans un contexte historique. La danse contemporaine, c'est une émancipation des codes classiques, notamment. Il y a eu deux gros foyers au XXe siècle, en Amérique et en Allemagne, qui ont re-questionné le corps en tant qu'entité biologique et qui ont voulu chercher un peu plus du côté de la libération, de l'anatomie.
En fait, c'est passé par aussi juste simplement danser pieds nus, enlever les corsets, les tutus et tout ce qui comprime et se libérer. Et au début, c'était quand même, ils ont dansé nus dans la nature, au Monte Verita, Isadora Duncan.
Ouais. Isadora Duncan en Amérique. Ouais. Mais effectivement, oui.
Et donc après, ces foyers-là, après ça a migré aussi en France. Hein, les années 80 ont été très importantes pour le développement de la danse contemporaine. Mais en fait, on devrait, je pense, comme pour l'art contemporain d'ailleurs, on devrait dire les arts contemporains. Et je pense qu'on devrait vraiment dire les danses contemporaines parce qu'il y a autant de styles qu'il y a de chorégraphes. En fait, moi, je vois ça aussi comme une sorte de choix pour les créateurs. Ils choisissent un temps, un espace, des qualités de corps. Et puis, parfois, les choses simplement naissent comme ça. Après, bien sûr, chacun a sa méthode de travail. C'est ça aussi qui est intéressant d'aller puiser chez différents chorégraphes, par exemple. Certains vont être très, très stricts, très qu'anciens. D'autres vont partir complètement sur des improvisations avec des cadres. Mais bon, ils vont laisser plutôt les interprètes les nourrir, eux. Et ça, c'est vraiment une différence. C'est vrai que le répertoire classique, bon, ben, il y a un vocabulaire, un code. On transmet une chorégraphie, on la retravaille. Bien sûr, maintenant, il y a le néoclassique. Il y a des choses qui se sont ouvertes. Hein, mais bon, le créateur contemporain...
Tu as utilisé un mot qui me semble assez important. Dans la danse classique, on a un répertoire qui sont du coup des pièces souvent narratives. Dans le contemporain, on a beaucoup, beaucoup moins ça. On a des choses qui peuvent être beaucoup plus abstraites. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'histoires qui peuvent être racontées, mais on n'a plus un déroulement de A à Z. Enfin, je ne crois pas. où le spectateur finalement se laisse raconter quelque chose. J'aime bien penser que dans la danse contemporaine, le spectateur va être un peu plus actif aussi, dans le sens où il va être soumis à des tensions, à des émotions, à des questionnements, et peu importe finalement qu'il ait aimé ou non la pièce, ce qui est important pour moi, c'est qu'il l'ait vue et qu'il se soit questionné dessus. C'est valable pour beaucoup d'art de toute façon. Mais
Et il y a un rapport aussi à la sensibilité peut-être du spectateur, quoi. C'est-à-dire... il regarde un spectacle et il n'y a pas que son intellect non plus ou son plaisir qui est en jeu, mais parfois aussi des choses très très subtiles qu'il ne va pas pouvoir énoncer, tellement c'est sensible et peut-être aussi nouveau. C'est ça aussi, c'est augmenter un rapport à soi. C'est comme se rencontrer, je pense. Ils vont se rencontrer eux-mêmes, rencontrer les autres, rencontrer le travail de quelqu'un. Et ça, c'est autant valable, je pense, quand on est spectateur que quand on est danseur-interprète, quand on essaye d'être chorégraphe. Parce que voilà, nous, on est quand même jeunes et on est au tout début.
Par exemple, c'est vrai que ça peut être une... On peut poser la question à l'envers. Qu'est-ce qui a fait que nous, on est venus à la danse contemporaine, sachant que moi, à la base, j'ai pas du tout commencé par le contemporain. J'ai plutôt commencé par la danse jazz, moderne jazz. J'ai fait de la danse africaine. Voilà, des choses qui... En tout cas, je savais que j'avais envie de bouger. Ce moyen de faire me parlait. Toi, tu as commencé par la danse classique.
Oui, classique et jazz et...
Et c'est vrai que moi, mon déclic, je ne connaissais pas du tout la danse contemporaine, je ne crois pas en avoir entendu parler, je ne viens pas d'une famille où la danse était quelque chose de connu. J'ai vu un spectacle et tout à coup, je me suis dit « Ah, ok, là, je viens de voir un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est possible de faire des choses comme ça. » Et ça, par contre, ça me parle. Donc effectivement, à partir de ce jour-là, j'ai essayé et je me suis
Ouais, c'est vraiment un déclic, faut le vivre, faut le voir en fait. Pour,
je pense que ça se vit, je pense.
Ouais, je pense aussi parce que moi c'était vraiment le même cas de figure. C'est un chorégraphe qui est venu dans le lycée où j'étais et qui a fait une représentation au sein même du lycée. Et c'est pareil, quoi. J'ai eu un déclic, je me suis dit, attends, mais on peut faire ça. Et... Ok, donc là d'un coup tout est renversé et c'est vraiment cette possibilité aussi de création et d'invention en fait. D'un coup, les danseurs peuvent être inventeurs, le chorégraphe est inventeur, enfin c'est un grand laboratoire comme ça où... qui est assez démocratique aussi je pense. Enfin, ça dépend des compagnies bien sûr, hein, mais en tout cas nous on fonctionne plutôt comme ça parce qu'on vraiment, on est ensemble dans le travail, on crée à deux, il n'y a pas une qui dirige. Ou, voilà.
Alors cette compagnie, vous nous l'avez déjà dit, elle est vraiment récente, elle a été créée quand exactement ?
En mai 2016.
En mai
2016,
ouais. En mai 2016, ouais, donc ça fait même pas un an, ça fait 6, 7, 8 mois.
Oui, tout à
fait. Ça fait 8 mois, et dans quel but, dans quelle optique vous avez créé, monté cette compagnie ?
Du coup, pour nous, c'était la continuité de ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place au sein de la formation, à Paris donc, puisqu'on avait eu des occasions de composer déjà des courtes chorégraphies, de les montrer un petit peu, et... En fait, on s'est dit, mais ça fonctionne bien, on est sur la même longueur d'onde, continuons de travailler ensemble.
Et... C'est vrai que c'est... Je trouve ça assez rare. Bon, il y a toujours énormément de rencontres, et de toute façon, les rencontres entre danseurs sont toujours une super expérience, parce que chacun, vraiment, a une énergie différente et danse de manière différente. Et donc, du coup, la manière de s'adapter à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est là aussi l'essence du métier. C'est vrai que quand on a commencé à danser et à inventer des choses ensemble, autant sur le point de vue physique que sur les idées qu'on pouvait avoir, ce qui nous nourrit, on était sur les mêmes, j'ai perdu mon mot, mais on était sur les mêmes inspirations ou les Camille a ben, t'as fait des études de photographie, donc en fait, il y a un rapport à l'image qui est très aussi présent, le cinéma, et notamment le cinéma, par exemple, de Buster Keaton, qui nous réunit très fort toutes les deux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui fait un espèce de magma culturel et qui se retrouvait, je pense, dans nos danses et dans nos tempéraments.
Et puis, ce qui est très sympa aussi, c'est que on a la même exigence dans le travail. Et en même temps, quand on commence à travailler vraiment aussi, on s'éclate en fait. Et pour moi, c'est vrai que c'est quand même un truc, l'aspect ludique de la chose est quand même très plaisante et je m'estime chanceuse, quoi. Voilà, d'arriver le matin au travail et en fait, c'est fun.
Ouais.
Aujourd'hui, la compagnie, c'est donc une association, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Vous êtes juste toutes les deux ?
Alors du coup, on n'est pas, enfin, on est membre de l'association, mais pas membre du bureau. On a un bureau administratif. Et nous, on est du coup futurs salariés de la compagnie, parce que bien évidemment, pour le moment, c'est les débuts, et on n'a pas forcément encore de subventions ou de fonds. Donc c'est un peu difficile, mais on travaille quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, si on attend. Que toutes les conditions idéales soient réunies, on ne fait jamais rien. Mais en tout cas, c'est l'idée.
Oui, ça va devenir votre activité principale.
Ouais.
D'ici peu, on espère.
Voilà.
D'ici peu, on espère.
Et par contre, on travaille, on a déjà travaillé pour le logo et pour certains croquis avec Margot Chéteau.
Ma sœur.
Voilà, la sœur de Suzy, qui est dessinatrice, enfin illustratrice. Ouais. Et là, pour... disons notre premier projet officiel, on travaille avec un groupe de musique aussi qui s'appelle Wicked Vessel, qui est d'ici.
Qui est de Blois, des membres
de la
sont entre
Tours
et Blois. Voilà. Ouais, voilà. Et c'est un très chouette groupe qui font vraiment une musique assez particulière et qui, moi, me plaît énormément. Et ils ont eu l'extrême amabilité de bien vouloir tester un rapport, parce qu'ils n'avaient aucune... connaissance ou en tout cas jamais imaginé qu'il puisse y avoir de la danse sur leur musique, donc ils ont voulu tenter l'aventure avec nous et c'est vraiment très très chouette, on est très reconnaissante parce que vraiment
ça fonctionne,
le travail dessus est chouette.
Du coup, vos activités au jour le jour, c'est quoi? Vu que vous êtes, vous avez un diplôme d'enseignant de danse, vous donnez des cours au sein de la compagnie?
Alors, au sein de la compagnie, pas encore. On est en train, justement, avec... on est en train de, surtout d'essayer de se faire connaître sur le territoire. Forcément, on ne peut pas débarquer comme ça et puis avoir l'idée que si on propose un cours, il va être plein.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des journées d'ateliers via l'association Courteline, en fait. Et du coup, on a déjà organisé un stage parent-enfant. Donc là, l'idée, c'est que voilà, un parent vient avec son enfant de plus de 5 ans, plutôt. Et on passe une après-midi ensemble, et puis un goûter après. Donc tout le monde danse ensemble. Il y a eu ça donc, en novembre, et puis on en a un autre à venir le 30 avril 2017.
Voilà, donc il y a encore des places. Donc,
ouais.
Mais c'est vraiment... J'encourage vraiment les parents à passer le pas, même si ça peut paraître étrange, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe souvent entre le parent et l'enfant. Ouais, on est sur des choses très simples en plus. Hein, c'est pas du tout. De toute façon, même avec des jeunes enfants, il n'est pas question de virtuosité ou de technique. C'est pas du tout le propos. C'est vraiment essayer de retrouver. Un rapport différent au corps avec, avec celui qu'on considère peut-être, si on est l'enfant, comme au-dessus de soi, ou celui qu'on considère plus petit, donc soumis à nos ordres, entre guillemets, quand on est parent. Et là, tout à coup, face à ce qu'on propose, tout le monde est remis sur un pied d'égalité et se retrouve à tester des choses. Et du coup, c'est assez intéressant. En tout cas, celui qui s'est passé a révélé de très beaux moments.
Il y a aussi un autre stage qui arrive début janvier, mi-janvier même, le 20 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Le 22.
Ouais. Dimanche 22 janvier. Et là, c'est un stage plutôt donc, à destination des adultes. On peut prendre aussi des jeunes adultes, il n'y a pas de souci. Mais donc là, c'est un stage d'improvisation et de composition, où l'idée, c'est d'accompagner tous les participants pour qu'ils explorent un peu leur danse, quoi, s'ils ne l'ont pas encore exploré.
En tout cas, de conscientiser peut-être certaines choses, certaines habitudes, certaines coordinations. Et puis surtout de partager ça avec les autres participants et d'essayer ensuite, avec cette improvisation, ce matériel de danse qu'on aura mis en place, essayer des processus de création et donc d'écriture. Vraiment, donc quelque chose qui là va pouvoir être refait plusieurs fois de la même manière. Voilà, on est sur du coup du laisser-aller et de la création.
Et c'est un atelier qui s'adresse à qui? Parce que c'est des néophytes, c'est des gens qui ont déjà fait de la danse, quelle qu'elle soit.
Là, pour le coup, c'est vraiment tout niveau. Donc, à partir de 16 ans, enfin, je pense que ça peut.
Ouais. Voilà, ça peut commencer. Mais parce que du coup, ça reste aussi très ouvert dans le sens où. Qu'importe le niveau de la personne, elle pourra y trouver son compte. Nous, on est là pour accompagner tout le monde. Et le but n'est pas de valoriser ou dévaloriser qui que ce soit, mais bien vraiment d'aller chercher pour soi des choses et de se faire plaisir dans cette danse à éprouver. Donc là, on n'est pas du tout sur de la technicité ou peut-être que ça viendra. On espère pouvoir proposer quelques cours techniques ou des stages peut-être un peu plus techniques ou pour des danseurs qui, des gens qui ont déjà dansé. Mais là, en tout cas, c'est vraiment l'idée de créer. Et à partir de là, on est d'accord toutes les deux pour dire que n'importe qui peut créer.
Et c'est après à nous, en tant que pédagogues aussi, de créer les conditions pour qu'ils soient évidemment à l'aise et au sein du stage, quoi, pour aller par là et se laisser guider, créer ensemble.
Et est-ce qu'il y a une cible pour vous, pour la danse contemporaine? Parce que j'ai vu sur votre site que vous aviez comme optique de travailler avec les scolaires, mais aussi de pouvoir faire des représentations dans les prisons, dans les hôpitaux. Donc c'est quoi l'objectif derrière tout ça, l'idée?
La partie un petit peu qu'on appelle action culturelle, qui peut être ou bien reliée à un spectacle en cours de création, à partir duquel, sur le même thème, on peut aller intervenir dans divers endroits.
Proposer des ateliers autour de la thématique et du coup questionner. Donc c'est des choses qui vont être un peu plus ponctuelles, souvent.
Ouais.
Sinon, après, effectivement, les interventions en milieu scolaire, c'est quelque chose qu'on a expérimenté déjà avec plusieurs compagnies.
En région parisienne.
Et c'est quelque chose qui, à notre sens, est vraiment fondamental, dans le sens où on touche un public très large, et que c'est à cet endroit-là qu'on peut commencer à planter des choses qui peut-être ne germeront pas, mais qui potentiellement, en tout cas, permettront d'éveiller un regard du spectateur et à nouveau ce questionnement. Et pour moi, voilà, l'accès à la culture et à l'art commence à l'école.
Au plus jeune âge, ouais. dès le plus jeune âge.
Et puis souvent, on s'est rendu compte aussi que ça avait vraiment un effet très bénéfique au sein de la classe, dans les relations entre les élèves, par exemple. Souvent, peut-être le cancre scolaire, on va dire, se révèle être un super danseur, ou en tout cas très à l'aise. Et puis, je sais pas, deux enfants qui étaient en tension, d'un coup dans une danse, sont obligés de danser ensemble et de se rencontrer. Et il se passe parfois des choses vraiment, voilà, indicibles, on va dire. Mais je pense qu'il y a des choses qui se passent.
Et ne serait-ce que, du coup, je rebondis juste un instant sur ce que tu viens de dire par rapport au regard des enseignants sur leurs élèves.
C'est ce que j'allais dire.
C'est très intéressant. Enfin, moi, du coup, j'ai déjà eu des ateliers où, effectivement, comme tu dis, l'élève qui est très lent en classe, qui... Alors, c'est pas une généralité du tout, hein, mais là, c'est l'exemple que j'ai en tête. Un élève qui était très lent, qui se faisait souvent reprendre. Dès la deuxième séance, s'est révélé, mais alors, moi j'en étais scotchée. Hein. C'était vraiment d'une fluidité, d'une beauté, d'une poésie incroyable. Et d'en parler ensuite avec la maîtresse qui me disait mais quelle révélation. C'est incroyable. Alors, c'est peut-être pas très déontologique de dire ça, mais voilà, je me disais que je pouvais plus rien faire pour cet enfant. Et en fait, si, il y a plusieurs, il y a énormément de portes d'accès. Mais voilà, on n'est pas, on est des êtres à multiples facettes. Et malheureusement, je trouve encore, l'éducation nationale ne propose qu'une porte d'entrée au savoir, alors qu'il y en a vraiment plusieurs. Et en ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, si on peut essayer d'aller un peu gratter ce vernis-là, on le fait avec plaisir.
On va maintenant parler un peu plus de vos créations, vraiment. Vos créations. Il y en a déjà une, en plus de celle en cours, bien sûr, dont on va parler, qui s'appelait La Tablée.
Oui.
La Tablée, qu'est-ce que ça a été ? On peut en savoir plus ?
Alors, La Tablée, c'est né très vite, en fait. Ça s'est fait une fulgurance... Je ne sais même plus comment ça a commencé. On savait qu'on voulait faire une vidéo de danse.
Ouais.
Parce que pour le coup, c'est vraiment un projet qui ne vise pas à être joué sur scène.
C'est vraiment un objet cinématographique.
Voilà,
quoi.
Ouais. Et là, disons, c'est en trois chapitres. On a déjà édité les deux premiers.
Ouais.
Et le premier, c'était un plan séquence. Donc, ça a été assez rapide, en fait. Une fois qu'on savait sur quoi on voulait travailler... je fais un mouvement, en fait, enchaîne avec l'autre, et puis boum boum, ah, mais ça, on va faire ça, c'est super. Et puis une fois que c'était rythmé et calé, c'était pondu, quoi. Et alors, l'idée, c'était plus toi, hein, c'était deux sales gosses
tabler. J'avais cette image, je sais plus d'où ça m'est venu, peut-être un rêve, ou en tout cas, il y avait deux enfants, je sais pas si c'est des garçons, des filles, et c'est pas l'important, mais deux espèces de des sales gosses qui n'ont pas forcément envie d'être à table ou de prendre leur bain ou de faire ce qu'on leur raconte. Et du coup, est née cette idée de quand on est à table, mets pas tes coudes sur la table, mange correctement, fais pas de bruit quand tu manges. C'est parti de ces espèces de règles qu'on dit tous les jours, même sans plus y penser, aux enfants. Et où je me. Voilà. Du coup, c'est parti de là et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut en faire.
Donc, on est en fait sur les coudes sur la table. On a. Deux assiettes et une soupière et une cuillère de soupe. Et voilà, par exemple, au début, elle me met le doigt dans la bouche, tout ça. Et ensuite, ça s'emballe et on passe à la fin. On passe sous la table et ensuite, il y a un chapitre 2, en fait. Mm. Où on est dans la nature avec un hachoir et tout ça. Enfin bon, j'essaie de pas trop dévoiler parce que ce serait bien que les gens aillent le voir. Mais
justement, on peut le retrouver où Parce que c'est presque des courts-métrages, en fait.
Ah, ouais,
c'est des courts-métrages.
Ouais. Alors, ils sont en ligne sur YouTube.
Ouais.
Et sinon, sur notre page Facebook de la compagnie, on les avait postés, en fait.
Et même sur le site de la compagnie.
Ah oui, ils sont sur le site aussi de la compagnie, ouais.
Sur la forme, plus, comment vous est venue l'idée de faire plus un court-métrage justement qu'une représentation classique de danse sur scène?
Là, je pense que ça partait vraiment aussi d'un... de l'envie d'un petit objet. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, on est assez sensible au cinéma, à l'image, et on avait envie de s'y frotter. Il y a des très très beaux films de danse, courts-métrages de danse ou des chorégraphies qui sont faites, notamment je pense à celle de Thierry Demey pour Anne-Thérèse des Kersmakers. Voilà, c'est un objet dansé, filmé, et c'est aussi une autre manière de travailler. Donc c'était se confronter à ce truc-là. Et j'ai oublié le début de la question.
Non, c'était pourquoi avoir privilégié cette forme et comment vous est venue l'idée même de faire quelque chose vraiment presque cinématographique plus que vraiment de spectacle vivant de... Parce que la danse, c'est en premier lieu du spectacle vivant.
Ouais. Ben, du coup, je pense que c'était l'envie de se frotter à la caméra.
On aime beaucoup toutes les deux le cinéma, comme tu disais, quoi. Moi, j'ai fait un mémoire sur la chronophotographie, donc c'est ce qui a donné, en fait, ensuite le cinéma, puisqu'en assemblant des images qu'on active, ça crée du mouvement. Et filmer la danse, c'est une question assez compliquée, parce que encore quand on fait un plan séquence, voilà, mais dès qu'on fait un montage, c'est à quel moment tu coupes, est-ce que tu fais un raccord dans
c'est
le
ça,
mouvement,
dans les raccords, que... ouais.
Quel
ouais.
rythme, quel... C'est recréer une chorégraphie,
quel
mais
insert.
Avec du montage.
Et pour nous, ouais, c'est un autre travail, parce que c'est vrai que quand t'es sur scène de A à Z pendant 30 minutes, c'est une autre qualité de présence que quand tu dois faire une minute, couper, reprendre, recommencer. Mais après, il y a peu de place pour des chorégraphies très très courtes aussi, il faut le dire quand même. Il y a peu de festivals qui vont proposer de faire... une chorégraphie de 5 minutes, 10 minutes. Alors qu'au début de la danse contemporaine, ouais. On avait par exemple Doré Somfray qui faisait des chorégraphies de 7 minutes, voilà. Enfin, de ce qu'on en sait en tout cas, mais après l'histoire a toujours des lacunes. Mais... Et du coup, le filmer, ça permet aussi de le pérenniser. Et ensuite, si vous voulez le passer en boucle pendant 30 minutes, c'est possible.
C'était un peu un défi en fait que vous vous êtes lancé de...
Oui, oui. Ouais. Puis après, il y avait aussi, comme disait Camille, le ludique est assez important dans notre travail. Et vraiment, ça partait de cette envie de s'amuser avec ça et de voir ce qu'on pouvait en faire. Et après, on n'a pas du tout la prétention de présenter non plus quelque chose de merveilleusement monté ou réalisé. L'idée, c'est que c'était justement quelque chose d'assez brut. Voilà, il y a deux danseuses, une caméra, un trépied, et on y va. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière la caméra. C'est nous qui avons pris, fait tous les plans. Donc, c'était assez gymnique, mais du coup, c'est drôle à faire.
Mais vous avez surtout une création en cours, Nos regards se croisent sur mon corps, c'est votre premier vrai projet en quelque sorte.
Exact, oui. Donc c'est un duo, on est toutes les deux et à créer et à danser. On est parti d'un échange en fait sur nos pensées. Sur notre propre corps, en fait, chacune. Qu'on a donc échangé. Je lui ai demandé, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que tu te dis quand tu te regardes devant le miroir? Et puis ensuite, elle m'a retourné la question. Et là, on s'est rendu compte de la violence de nos propres propos, en fait.
Ce qu'on se dit à soi-même, donc c'est vraiment les réflexions sur son corps intime. Et avant qu'on se dise, du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, je pense qu'il y avait aussi l'énervement et la colère... qui était monté, je pense, de part et d'autre, sur toute cette société qui nous entoure et sur tout ce à quoi une femme est plus ou moins soumise, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où on supporte et où on est assez forte pour dire non, je m'en fiche, je ne vois pas. Et d'autres périodes où juste ça nous accable. Et je pense qu'on était dans une période où effectivement, les publicités...
les remarques dans la rue.
Voilà,
s'il
y a un trop-plein et on se dit là, c'est pas possible pour faire quelque chose. Et on n'a pas non plus 15 000 moyens et ça passe par du coup ce qu'on sait faire, donc la création, la danse.
Ça, c'est donc la genèse du projet. Ouais. Et concrètement, c'est quoi les étapes de création comme ça d'un spectacle? Parce que ça sera un spectacle, celui-là qui se jouera sur scène.
Oui.
Quelles sont les étapes?
Alors, du coup, pour nos étapes à nous, parce qu'il n'y a rien de...
Oui, il n'y a rien d'écrit ou il n'y a pas de processus
de
chemin particulier à suivre. Enfin, chacun fait un peu comme il le sent.
Du coup, on a commencé par échanger, plus verbalement aussi. Et on est parti dans des improvisations où on s'est regardé et puis on s'est dit « Ah, ça c'est bien, on va garder ça et creuser ça ». Et ça a donné lieu à une chorégraphie déjà de 4 minutes qu'on a pu présenter au sein de notre école de danse. Et ensuite, on a échangé avec les enseignants, les autres élèves qui nous ont quand même tous un petit peu...
Fait des retours plutôt encourageants.
Encourageants, ouais. En nous disant peut-être que vous devriez quand même creuser. Et puis de toute façon, on en avait l'envie. Mmh. Et donc, ça a continué avec la création de la compagnie. Et on a fait déjà... On a commencé cet été,
trois
en fait.
Résidences.
Ouais. En août, donc via le réservoir qui est à Saint-Épin.
Qui est le lieu d'Aurélien Gallo. Et voilà, on a été travailler là-bas pour débuter le travail.
Ouais.
C'est un super lieu qui est au milieu de la campagne, dans des habitations troglodytes, mais très très propice à la création.
Ouais, beaucoup de bonnes énergies, quoi.
Ouais. Ensuite, on a été à la pratique.
Oui.
Le lieu de Cécile Loyer, près de Bourges, à Vatan. Pareil, pour continuer la création.
On a fait une semaine.
Ouais. Et là, on a fait, il y a récemment 3 jours, à Châteaudun, sous chapiteau, la compagnie du Bois Midi, dirigée par Charles Millet. Et on en a d'autres à venir, parce que effectivement, la question, autant un artiste illustrateur peut prendre ses crayons, ses pinceaux et dessiner où il veut, nous on a besoin d'espace.
Ouais.
Et c'est le gros problème. Donc là, pour le moment, la création passe uniquement par des résidences, parce que c'est pour le moment la seule solution qu'on a trouvée pour avoir un peu de temps et d'espace pour créer.
Mais on est très contente quand même, parce qu'on a une résidence à venir en juin. Et on sera au 37e parallèle.
Qui se trouve à Tours.
Nord. Voilà, Tours Nord. Et a priori, on fera donc une sortie de résidence
le 9 juin.
Très bien. Et vous savez à peu près quand est-ce que vous espérez finir le projet?
Normalement,
avec cette sortie de résidence, ça sera bouclé, le projet, les représentations suivront cette date.
On espère.
En espérant.
Oui.
On espère aussi. On espère aussi. Et moi, je vais vous remercier, du coup, Suzy et Camille, d'être venues dans Sortez ce soir.
Merci à vous.